Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convet.
Évangile de Jésus-Christ selon l'écrit de Jean, texte de la liturgie catholique pour le cinquième dimanche de Carême. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est Marie qui a oint le Seigneur de parfum et qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux, et dont le frère Lazare est malade. Les sœurs envoient dire à Jésus,
« Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. »
À cette nouvelle, Jésus dit,
« Cette maladie n'est pas pour la mort, mais en vue de la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. »
Jésus aime Marthe et sa sœur et Lazare. Comme il entend que Lazare est malade, il reste alors 2 jours au lieu où il est. Ensuite, après cela, il dit aux disciples,
« Retournons en Judée. »
Les disciples lui disent,
« Rabbi, maintenant les Juifs cherchent à te lapider et tu retournes là-bas ?»
Jésus répond,
« N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche de jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche de nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. »
Il dit cela et ensuite il leur dit,
« Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais pour le tirer de son sommeil. »
Les disciples lui disent donc,
« Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. »
Mais Jésus a parlé de sa mort et eux pensent qu'il parle de l'endormissement du sommeil. Alors Jésus leur dit franchement,
« Lazare est mort. Je suis heureux pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. »
Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit donc à ses condisciples,
« Allons nous aussi pour mourir avec lui. »
Jésus arrive donc et le trouve ayant déjà 4 jours dans le tombeau. Béthanie est proche de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs sont venus consoler Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe entend que Jésus arrive, elle va à sa rencontre, mais Marie reste assise à la maison. Marthe dit donc à Jésus,
« Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. »
Jésus lui dit,
« Ton frère se relèvera de la mort. »
Marthe lui répond,
« Je sais qu'il se relèvera à la résurrection au dernier jour. »
Jésus lui dit,
« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui a foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout être qui vit et a foi en moi ne mourra pas pour l'éternité. Crois-tu cela ?»
Elle lui dit,
« Oui, Seigneur, moi j'ai foi que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. »
Ayant dit cela, elle s'éloigne et appelle Marie, sa sœur, lui disant tout bas,
« Le Maître est là et il t'appelle. »
Celle-ci, quand elle l'entend, se lève en hâte et vient vers lui. Jésus n'est pas encore entré dans le village, mais il est encore à l'endroit où Marthe l'a rencontré. Les Juifs donc, ceux qui sont dans la maison avec elle pour la consoler, voyant Marie se lever en hâte et sortir, l'accompagnent, pensant qu'elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arrive donc à l'endroit où se trouve Jésus. En le voyant, elle se jette à ses pieds et lui dit,
« Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. »
Jésus donc, lorsqu'il la voit pleurer, et pleurer les Juifs qui sont venus avec elle, est fortement ému, intérieurement et bouleversé. Il dit,
« Où l'avez-vous déposé ?»
Ils lui disent,
« Seigneur, viens voir. »
Jésus fond en larmes. Alors les Juifs disent,
« Voyez comme il l'aimait. »
Mais certains d'entre eux disent,
« Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, est-ce qu'il ne pouvait pas faire que celui-ci ne meure pas ?»
Jésus, à nouveau fortement ému en lui-même, va vers le tombeau. C'est un caveau et une pierre est posée dessus. Jésus dit,
« Enlevez la pierre. »
Marthe, la sœur de celui qui vient de mourir, lui dit,
« Seigneur, il sent déjà, car c'est le quatrième jour. »
Jésus lui dit,
« Ne t'ai-je pas dit que si tu as foi, tu verras la gloire de Dieu ?»
Ils enlèvent donc la pierre. Alors Jésus lève les yeux vers le ciel et dit,
« Père, je te rends grâce de ce que tu m'as écouté. Moi, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé pour la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que toi, tu m'as envoyé. »
Ayant dit cela, il s'écrie d'une voix forte,
« Lazare, viens dehors !»
Le mort sort, les pieds et les mains liés de bandelettes. Son visage est enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit,
« Déliez-le et laissez-le aller. »
Alors beaucoup de Juifs qui sont venus chez Marie et qui ont observé ce qu'il a fait, croient en lui. Bonjour Georges, bonjour chers auditeurs, auditrices.
Bonjour André.
Cette maladie est pour la gloire de Dieu, comme le texte nous le précise bien. Pourquoi et comment se justifie cette parole de Jésus?
Oui, dans notre mentalité d'aujourd'hui, on pourrait peut-être interpréter cette phrase d'une autre manière, en disant, bon, pour glorifier Dieu, il faut que cet homme soit malade et même qu'il meure, afin que Dieu puisse déployer sa puissance à la face de ses créatures. Mais est-ce que ce Dieu-là, qui exigerait la mort de quelqu'un pour déployer sa force, serait le Dieu de Jésus? On peut en douter. Il y a sans doute une autre façon de comprendre cette phrase. Mais d'abord, voyons où se trouve notre texte dans le récit de Jean. Il est situé dans une section qui va du chapitre 10, verset 22, au chapitre 11, verset 54, une section qui est tout entière marquée par la fête juive de la dédicace. On sait peut-être que dans tout l'évangile de Jean, on veut montrer que les thèmes majeurs des fêtes juives sont réalisés par Jésus. Lui, l'envoyé du Père, accomplit ce que l'on attend de Dieu. On peut donc penser qu'on va retrouver la même chose ici. Alors, quels sont les thèmes de cette fête de la dédicace du Temple? Eh bien, on y célèbre Dieu, mais Dieu présent au milieu de son peuple pour le rassembler dans l'unité et lui donner sa vie. Dans le texte qui précède notre passage sur Lazare, au chapitre 10, versets 25 et 30, Jésus se présente comme le bon pasteur.
« Mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne se perdront pas pour toujours. Moi et le Père, nous sommes un. »
Le pasteur, c'est à la fois celui qui rassemble les brebis, mais qui aussi leur trouve la nourriture en les menant paître dans le pâturage. Jésus nous dit donc qu'il est le bon pasteur et qu'il va donner la vie. Et ce don de la vie, eh bien Jésus va l'accomplir en s'offrant à la mort dans un geste ultime d'amour. C'est d'ailleurs ce que le grand prêtre juif avait prophétisé.
Jésus doit mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés.
Alors on peut donc penser que le thème de la vie et de la mort, qui est donc le thème de la fête de la dédicace, va être maintenant illustré par notre récit de la réanimation, du retour à la vie de Lazare.
Le geste de Jésus qui va ramener Lazare à la vie n'est-il pas lié à la propre mort de Jésus?
Oui, la situation est devenue dramatique pour Jésus à Jérusalem. Et pour échapper à un complot possible de ceux qui veulent sa mort, il s'est réfugié au-delà du Jourdain. C'est là où il se trouve avec les 12 lorsqu'on lui apprend la grave maladie de son ami Lazare. À cette époque où la médecine est loin de tout guérir, une maladie grave, eh bien c'est une maladie mortelle. Alors on peut se dire, eh bien Jésus va aller auprès de ses amis. Mais comme le village de Lazare, Béthanie, n'est qu'à 3 kilomètres de Jérusalem, et que c'est à Jérusalem que se trouve justement le complot contre Jésus, Jésus hésite peut-être à se rendre à Béthanie. Sa vie va y être effectivement en danger, et il va attendre 2 jours avant de prendre sa décision. Mais on peut aussi lire cette attente de 2 jours d'une autre manière, y voir plutôt un chiffre symbolique. En effet, dans la croyance juive de l'époque, l'âme demeure encore proche du corps du défunt pendant 3 jours après sa mort, c'est-à-dire jusqu'au moment où commence la putréfaction, une putréfaction qui est bien sûr très rapide dans des pays chauds comme Israël. D'ailleurs, quand Jésus va demander d'ouvrir le tombeau, Marthe va lui rappeler cela. « Monseigneur, il doit sentir, lui dit-elle. Cela fait déjà 4 jours. » Alors ces 2 jours d'attente ne sont peut-être que le délai nécessaire afin que ce geste de Jésus de réanimer Lazare apparaisse vraiment clairement comme le geste de Dieu qui rappelle à la vie celui qui est sans doute possible véritablement mort. Jésus se décide donc à venir à Béthanie. Dans les coutumes de l'époque, même si le défunt est enterré le jour même de son décès, les amis avaient 8 jours pour venir présenter leurs condoléances à la famille. Les proches du défunt passent donc ces 8 jours comme un temps de veillée mortuaire. On est assis par terre, on pleure sur le défunt, on prie. Eh bien, c'est ce que font les 2 sœurs de Lazare, Marie et Marthe. Lorsque Marthe, par contre, apprend l'arrivée de Jésus, elle va aller au-devant de lui et elle va le rejoindre au tombeau. Et c'est là que va se dérouler le grand geste prophétique de Jésus.
Reprenons notre interrogation du début. Comment la maladie et la mort peuvent-elles glorifier Dieu?
Alors posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que la gloire dans la Bible? Dans ce récit évangélique de Jean, nous pouvons regarder d'autres passages où Jésus parle de la gloire. À la veille de son arrestation, alors qu'il vient de faire une entrée triomphale à Jérusalem, voilà des juifs hellénistes qui viennent parler avec lui. Et Jésus leur dit les choses suivantes.
« Voici venir l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Si le grain de blé ne meurt pas, il reste solitaire. S'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Maintenant mon âme est troublée. Père, sauve-moi de cette heure pour laquelle je suis venu. Père, glorifie ton nom. »
Voilà, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié est l'heure de sa mort. Lors du dernier repas, on va trouver encore ce propos de Jésus sur la gloire.
« Dès que Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu a été glorifié en lui. »
Donc dans ces deux passages, l'heure de la gloire est liée à la mort. Cela peut peut-être nous sembler un peu étrange de voir la mort liée à la gloire. La mort, en effet, est-ce que ce n'est pas un acte tragique qui manifeste au contraire notre faiblesse, notre finitude? Alors comment peut-elle être un moment de gloire? Même si il est vrai que nous sommes habitués à glorifier les gens qui meurent au champ d'honneur, c'est-à-dire ceux qui meurent en donnant leur vie pour sauver la liberté de leur pays. Pour Jésus, cette heure glorieuse de la mort est celle du don de sa vie, et un don qui traduit son amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et c'est parce qu'elle est justement le don de la vie, par amour, que cette heure est une heure de gloire. Le mot hébreu « kabod », qu'on traduit par « gloire », évoque l'idée de poids. La gloire de quelqu'un s'évalue au poids de sa fortune, au poids de son savoir, au poids de son pouvoir, on dit de quelqu'un qui est pesant, d'ailleurs nous le disons encore aujourd'hui. Mais quand il s'agit de Dieu, ben il ne s'agit pas du poids de sa richesse ou du poids de sa force, mais il s'agit du poids de son amour. Et pour Jésus, la gloire va donc être liée à l'amour. Et elle est, en étant liée à l'amour, elle est liée à la mort, car Jésus va mourir, non seulement par amour, mais pour donner son amour à ceux qui l'accueilleront.
Thank you. Dans notre récit, il ne s'agit pas encore de la mort de Jésus. Mais pourquoi ce moment où il va faire revivre Lazare est-il celui de la glorification de Jésus?
Eh bien, dans le chapitre qui précède le nôtre, ce retour à la vie de Lazare, rappelons-le, Jésus s'est présenté comme le bon pasteur. Dans la Bible, ce titre est celui de Dieu qui est l'unique pasteur de son peuple, mais les chefs du peuple, parce qu'ils dirigent au nom du vrai pasteur, sont aussi qualifiés de pasteurs. Et les prophètes ont souvent critiqué les chefs parce qu'ils n'étaient pas des bons pasteurs. Ézéchiel, par exemple, avait traité les rois d'Israël de mauvais bergers. En effet, le royaume que David avait unifié était maintenant divisé, le royaume du nord et le royaume du sud. Et cette division avait sans doute favorisé l'agression par les pays voisins qui avaient envahi les royaumes juifs, et beaucoup de juifs étaient exilés. Eh bien, écoutons Ézéchiel.
Je viens moi-même chercher mon troupeau pour en prendre soin. De même qu'un berger prend soin de ses brebis, ainsi je prendrai soin de mon troupeau. Je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé. Je le rassemblerai et le ferai paître sur les montagnes d'Israël. La brebis perdue, je la chercherai, et celle qui se sera écartée, je la ferai revenir.
On a rappelé tout à l'heure que Jésus se donnait comme le bon pasteur qui va rassembler, qui va guérir, qui va nourrir, qui va donner sa vie. Et il proclame que c'est Dieu, son Père, qui lui a donné cette tâche. Or, ces paroles de Jésus, où il se dit le bon pasteur, vont provoquer la division parmi ses auditeurs.
Beaucoup disent, il est possédé, il déraisonne. Certains ramassent des pierres pour le lapider.
Voilà donc l'épisode qui précède la mort de Lazare, marqué par une opposition grandissante envers Jésus. Et lorsqu'il décide d'aller voir Lazare, Thomas va s'écrier, allons nous aussi et nous mourrons avec lui. Mais bien plus, le retour de Lazare à la vie, l'Évangile nous dit que cela va précipiter la mort de Jésus. En effet, si le passage que nous avons aujourd'hui se termine par une note positive, parmi les Juifs qui avaient vu ce que Jésus avait fait, beaucoup crurent en lui, le verset suivant a un tout autre son.
D'autres s'en allèrent trouver les pharisiens, et ils réunirent un conseil. Et ce jour-là, ils décidèrent de mettre à mort Jésus.
Ce jour-là, c'est un crucial paradoxe. En venant rendre la vie à Lazare, Jésus sait qu'il décide de sa propre mort. Et c'est peut-être cette proximité de sa propre mort qui le rend fortement ému intérieurement et bouleversé. Il n'est pas très facile de traduire ces expressions grecques. Le premier verbe signifie l'emportement, l'indignation, et le second, le trouble. Les spécialistes disent que ces deux verbes grecs traduisent peut-être un même verbe araméen, ragaz, qui en effet a les deux sens et évoque une sorte de révolte intérieure. Alors comment comprendre cette révolte? On retrouve les mêmes expressions en deux endroits où Jésus, précisément, évoque sa mort. D'abord, dans sa rencontre avec des juifs hellénistes, une rencontre dont nous avons parlé tout à l'heure, et à qui il dit
« L'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Maintenant je suis bouleversé. Père, sauve-moi de cette heure. »
Je suis bouleversé. Et plus tard, quand il annonce aux disciples que l'un d'eux va le trahir et le livrer, l'Évangile note
« En disant cela, Jésus fut bouleversé intérieurement. »
Regardons aussi un autre récit, le récit de Luc. On y parle du trouble et de l'effroi de Jésus à Gethsémani. Alors, qu'est-ce qui bouleverse ainsi Jésus? À Béthanie, est-ce que c'est la souffrance de perdre un ami qui lui est cher? Ou est-ce que c'est la perspective de sa propre mort, des souffrances qu'il va vivre? Ou bien plus radicalement encore, est-ce qu'il se révolte comme tout humain qui éprouve une révolte devant la mort? En effet, nous sommes faits pour vivre et nous nous voyons arrachés à la vie. La révolte devant la mort, parce que la mort est une fin absurde, un non-sens au plan de notre sensibilité humaine. Alors Jésus, sans doute, vit intensément tout ce que tout être humain ressent. Mais Jésus vit, nous dit le texte, ce sentiment de révolte sous la mouvance du souffle de Dieu, du souffle spirituel de Dieu. Dieu, lui aussi, se révolte devant la mort. Mais il se révolte parce qu'elle est la conséquence, le fruit du mal. Certes, la fin physique de notre existence est naturelle, mais tout ce qui l'entoure, l'angoisse devant le vide, l'incertitude de l'après, la brisure des liens d'amour, le doute même sur l'au-delà, tout cela est la conséquence de notre péché, comme le dit le texte biblique de la Genèse. Enfin, peut-être Jésus se révolte-t-il devant le choix qu'il doit faire, livrer sa vie en acceptant d'être condamné. On sait que ce choix n'a pas été facile. La réaction de Jésus devant Pierre, qui le dissuade d'accepter cette mort, est éloquente. « Retire-toi, Satan, lui dit-il, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Il faut sans doute à Jésus toute sa foi en son Père pour dépasser à la fois ce sentiment d'absurdité qu'il révolte, mais aussi cette difficulté de pardonner à ceux qui vont le livrer, un pardon qui doit aller jusqu'à livrer lui-même librement sa vie. Voilà l'heure venue pour Jésus de vivre la parabole du bon pasteur qui se dessaisit de sa vie pour la donner à ses brebis. En acceptant de risquer sa vie, de perdre sa vie aux mains des Juifs, Jésus sauve son amour. Et c'est parce qu'il meurt en aimant jusqu'au bout qu'il va pouvoir ainsi donner son amour à ses brebis. Et la première d'entre elles est Lazare, qui va écouter la voix de son pasteur qui le rappelle à la vie.
Ne t'ai-je pas dit que si tu as foi, tu verras la gloire de Dieu?
Oui, Jésus a choisi de marcher vers la mort, de se livrer à ceux qui le haïssent. Et ce choix témoigne qu'il va aimer jusqu'au bout. Alors, tous peuvent-ils voir dans ce geste de Jésus la gloire de Dieu? Eh bien non. Ce choix qui glorifie le Père, parce que le Père est la source de l'amour, seuls ceux qui croient en l'amour pourront discerner que ce choix est fait par amour, que Jésus ramène Lazare à la vie parce qu'il est amour. Comme Jésus le dit à Marthe, si tu as confiance en l'amour, tu verras la gloire de Dieu. Et pour ceux qui ne vivent pas d'amour, bien l'amour va rester voilé. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ce geste de Jésus de ramener Lazare à la vie va provoquer leur haine grandissante et leur décision de le tuer. Pour ceux qui ne sont pas sur la longueur d'onde de l'amour, Dieu ne se révèle pas. J'aime bien ce proverbe, les oiseaux ont besoin de l'air pour voler, les poissons ont besoin d'eau pour nager. Dieu, lui, a besoin de l'amour pour se manifester. Lorsque l'heure est venue où Jésus s'approche de la mort, eh bien, nous allons lire quelques textes, où nous verrons que l'Évangile multiplie les mots qui traduisent l'amour qui est dans le cœur de Jésus.
Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Jésus, sachant que son heure était venue, lui qui avait aimé les siens, les aima jusqu'à l'extrême de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Personne n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami.
Seigneur, celui que tu aimes est malade. Redisons de tout notre cœur cette prière à Jésus. Redisons-la pour nous. Sommes-nous assez conscients de cet amour dont Jésus nous entoure? Assez conscients et assez confiants. Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Quel que soit mon péché, si grande soit ma faiblesse, Jésus même, il a livré sa vie pour moi. Cette certitude d'être aimé de Jésus nous fait-elle participer déjà à la force secrète de sa résurrection? Je suis aimé, mais je suis aimé pour aimer, pour vivre un amour qui seul permet de dire des mots justes à ceux qui sont liés par les bandeaux de la souffrance ou par les liens du désespoir. Non pas des mots pieux trop facilement dits, mais des mots qui viennent d'un cœur prêt à se donner par amour. Au cœur de la souffrance la plus atroce, ce savoir aimer, entouré, cela change sinon tout, du moins quelque chose dans la manière de supporter la souffrance. Méditons ces paroles de Régent, il n'avait pas 30 ans, il luttait depuis des mois contre le sida. Quelques semaines avant sa mort, il écrit à son ami Micheline.
Tu sais, Micheline, qu'avec tout ce que je vis depuis quelques années, je ne peux faire autrement que de me poser des questions à propos de la souffrance, de la mort, que de vouloir trouver un sens à tout cela. En quelque part, j'aimerais beaucoup t'annoncer que j'ai enfin trouvé, mais ce n'est pas le cas. Cela demeure un grand mystère. J'ai cependant fini par découvrir quelque chose qui a encore moins de sens que la souffrance et la mort, et c'est de se retrouver en dehors de l'amour, en dehors de moi-même donc, puisque je suis l'amour. Cela, c'est le non-sens des non-sens. Autant je me retrouve tout à fait impuissant devant la souffrance et la mort, autant il n'en tient qu'à moi de me placer dans l'amour dans moi-même, ainsi d'en contourner le non-sens. Autant je n'ai pas d'autre choix que de me laisser écraser par la souffrance, enlever par la mort, autant le choix est le mien que de vivre cela dans l'amour, en amour. Est-ce que cela, ce n'est pas un sens donné à la souffrance et à la mort? C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.